Trinville PM. La voix est libre.
Ah ah! Totalement en désaccord avec ça. C'est un sport d'équipe, la politique.
Voici Luc Lavoie.
Luc Lavoie, salut.
Salut, Bernard.
On va y aller avec ton mauvais coup d'abord.
Mon mauvais coup d'abord, c'est le New York Times. C'est que cette lettre qui a été publiée par le New York Times,
ouais,
venant de l'intérieur de l'administration Trump,
ouais,
et le dénonçant comme un homme qui est inapte à diriger tout ça,
mm-hmm,
le contenu de la lettre est extrêmement intéressant, constitue certainement de la nouvelle.
Inquiétant.
Inquiétant. Mais d'un autre côté, Bernard, je ne le sais pas, tu as pratiqué le journalisme plus longtemps que moi. La vraie nouvelle, hein, la vraie de vraie nouvelle, c'est qui l'auteur de cette lettre-là? Or, qui le sait? Le directeur des pages éditoriales du New York Times le sait, c'est un journaliste, ça, à ma connaissance. C'est un cadre journaliste.
Oui.
Quand tu as une nouvelle comme ça, la nouvelle étant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de l'administration Trump qui se dit un résistant et qui se dit allié avec d'autres résistants qui empêchent Trump de faire des conneries,
mm-hmm,
la vraie nouvelle, c'est qui l'auteur de cette lettre-là? Et quand tu es un journaliste professionnel, tu sors la nouvelle, puis tu la sors le plus vite possible, une fois que c'est déterminé.
Oui, mais tu sais bien, Luc, que le New York Times n'aurait pas eu la lettre en question si son auteur n'avait pas été assuré de la protection par la haute direction.
Ben, ça m'apparaît être le cas, mais est-ce que c'est acceptable? Par exemple...
Ben, moi, je pense qu'on est rendu, on est rendu là. Normalement, dans des circonstances normales, je te dirais non. Mais là, moi, je pense que le New York Times a placé son devoir démocratique au-dessus de tout.
Et je comprends ce que tu dis, Bernard, mais j'ai un peu de difficulté avec ça. J'ai vraiment un peu de difficulté avec ça. La vraie de vraie nouvelle après laquelle tout le monde court à l'heure actuelle, là, mais tout le monde, là, oui, la ville de Washington est un tourbillon de courir après qui est l'auteur, ben, il y a un grand journal américain, le plus grand d'entre tous, le New York Times, qui le sait. Mais qu'il ne rendra pas public parce qu'il s'est engagé à ne pas le faire.
C'est sûr que ça place les journalistes de la salle. Les journalistes du New York Times, d'ailleurs, il y en a qui s'en sont ouverts publiquement.
Oui.
Ils ont dit, écoute, moi, là, comme journaliste du New York Times, là, dans des circonstances normales, ce que j'essaierais de faire, c'est de découvrir qui est la personne derrière cette lettre anonyme.
Exactement.
Or là, c'est mon journal, appuyé par mon patron, autorisé par mon patron, qui a publié la dite lettre. Fait que là, si jamais je trouvais qui l'a écrite, est-ce que mon patron me laisserait publier son nom? La réponse, je pense, c'est non.
Mais ça pose
une vraie question. À ce moment-là, tu fais quoi?
Ça pose une question éthique assez fondamentale.
C'est clair.
Par exemple, je vais donner l'exemple du Wall Street Journal, là, qui est un autre des très, très grands médias américains. Eux, ils ont eu comme politique, depuis à peu près 15 ans qu'ils l'ont instauré, ils ne font jamais référence à des sources anonymes. Eux, on impose à leur salle de rédaction de toujours nommer les sources. Et évidemment, ça fait qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas rapporter, mais ça fait aussi que c'est extrêmement fiable.
Ils doivent toujours les identifier par leur nom?
Oui, absolument.
Vraiment?
Oui.
Absolument. Wall Street Journal ne publie pas d'articles où ils disent, je ne sais pas moi, un broker qui travaille dans une grande firme de courtage, là, chez Merrill Lynch, whatever. Ils peuvent pas juste citer quelqu'un comme ça, là. Ils sont obligés de mettre le nom, sinon,
oui,
sinon ils signent pas le papier, sinon le papier est pas publié.
Sinon le papier est pas publié, en effet. Alors ça, c'est l'autre extrême. Il y a une autre grande organisation de presse américaine qui s'impose la même règle éthique, et c'est l'agence financière Bloomberg. Bloomberg, écoute, ils ne mettront pas un mot s'ils ne sont pas capables de dire qui en est l'auteur. Alors, ça me ramène au New York Times.
Mm.
Le devoir démocratique, et tu sais ce que je pense de Trump, alors toi et moi, on est du même avis là-dessus.
Mm. Oui.
Mais c'est quoi la nature du journalisme? C'est de faire des deals en passant des jugements de valeur sur le choix démocratique de la population, ou c'est de rapporter la nouvelle? Puis, every news that's fit to print, OK?
Oui.
Ça, c'est la devise du New York Times. Mais la nouvelle de l'année 2018, sinon des dernières années, c'est le nom de l'auteur de cette lettre-là. Ça, c'est de la nouvelle. Ça, c'est de la nouvelle. Parce que la fameuse lettre, elle n'avait d'intérêt que dans la mesure où elle était signée par quelqu'un qui travaille dans l'administration
non,
Trump. Parce que ce qu'on voyait, Bernard, dans cette lettre-là, c'est exactement ce qui est contenu dans le livre de Bob Woodward.
Ouais.
Alors donc.
Ouais, mais là, laisse-moi te donner la contrepartie. OK? Moi, là, je vais te dire, là, je me suis mis à la place d'un Américain quand j'ai vu cette lettre-là, je l'ai lue. Et je me suis dit, et que je suis rassuré de savoir qu'il y a dans l'entourage de Trump des gens qui sont là pour me protéger, qui sont là pour s'assurer que Trump ne commettra pas d'erreurs qui pourraient ultimement mettre ma sécurité en danger parce qu'il a d'immenses pouvoirs, y compris le pouvoir de faire la guerre, Trump. Et donc, de savoir qu'il y a dans l'entourage de Trump des patriotes qui sont là, dans le fond, pour s'assurer que le peuple américain est protégé contre cette espèce de fou furieux, moi, je vais te dire, je pense que c'est une bonne nouvelle et je pense que c'était la responsabilité du New York Times de publier cette lettre-là, Luc.
Même si
je suis d'accord avec toi que ça crée une situation un peu bizarroïde qu'on souhaite pas se reproduire trop souvent, mais je pense que c'est l'exception qui doit confirmer la règle.
Écoute, j'ai eu exactement le même réflexe que toi, de me dire « Ah, c'est rassurant qu'il y a des gens à l'intérieur de l'administration qui essaient de faire en sorte que le pays d'abord, puis les folies, on va essayer de les contrôler, tout ça. » C'est mon premier réflexe. Mais à mesure que je vois la nouvelle prendre de l'ampleur, puis de bouffer tout ce qui existe, et bon, c'est devenu le cœur de tout dans le pays, et même dans le monde, hein, c'est partout dans le monde entier, cette histoire-là. Là, tu te poses la question, qui est l'auteur? Là, tout le monde part à la chasse à l'auteur, puis il y en a même, Rand Paul, le sénateur, lui recommandait qu'on fasse passer un test de détecteur de mensonges à tous les employés de l'administration Trump, ce qui est de la folie pure.
Ouais.
Mais là, je m'arrête une seconde, puis je me dis, mais qui saurait ça? Ben, c'est un journaliste qui le sait, c'est le chef des pages éditoriales, puis il reste assis dessus.
Mais Luc, si un journaliste du Washington Post finit par savoir qui c'était, il va le publier.
Tu peux être sûr.
Ou elle va le publier.
Ben alors,
ce n'est pas l'ensemble, c'est pas la liberté de presse qui est verrouillée, qui est menottée. C'est le New York Times qui a menotté sa rédaction jusqu'à un certain point.
C'est le New York Times qui s'est mis les procès-menottes.
Oui, mais c'était... Moi, je pense que dans ce cas-ci, c'est justifié. Je vais le dire comme ça, là, c'est rare que j'utilise cette expression-là, là, mais dans ce cas-ci, là, la fin justifiait le moyen. Et la fin, c'est de dire au peuple américain, il y a des gens qui travaillent pour vous et qui agissent un peu comme des espèces de garde-fous, c'est le cas de le dire, à l'intérieur de la Maison-Blanche.
Oui, mais c'est drôlement important, Bernard, de savoir si... L'auteur de la lettre, c'est le chief of staff. Si c'est le cas, écoute, c'est extrêmement majeur. Parce qu'il l'appelle senior officials.
Oui,
on pourrait dire un haut gradé de l'administration.
Ou un haut responsable
de l'administration.
C'est visiblement quelqu'un qui a participé à des rencontres avec Trump, parce qu'à un moment donné, il parle de ces rencontres-là. Il parle même de briefing. À un moment donné, il dit, on discute avec lui, puis à un moment donné, il part sur des rants, là, il se met à gueuler, puis il part sur des espèces de... Tu sais, il se met à crier ou à vilipender à voix haute, puis il part sur des chires, comme on dit nous autres. Là. Il part sur une chire le money, puis on est en meeting avec lui, ou encore, il lui prend une décision, puis une minute plus tard, il nous dit le contraire de la décision qu'il a prise. C'est un gars qui est très... Un gars, on pense que c'est un homme, puis c'est peut-être une femme, très, très proche du président Trump. Mais laisse-moi demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent.
Mais là, je vais juste dire un dernier mot. T'as raison sur toute la ligne, mais c'est qui? Ça, c'est la nouvelle.
Ah ben ça, mon homme, si jamais on l'apprend...
On va éventuellement l'apprendre, puis le New York Times va avoir l'air fou.
Mais si jamais on l'apprend, on va sortir au 98.5.
Ah, tu peux être sûr.
D'abord, 790-9850, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Parce que ça nous semble, a priori, là, la politique américaine, là, je dirais dans des temps normaux, c'est quand même loin de nous. On s'y intéresse davantage quand arrivent les élections et tout le reste. Mais là, l'espèce de feuilleton Trump fait en sorte, et toutes les répercussions que ça a sur nous, notamment sur les négociations de l'ALENA, fait en sorte que ce qui se passe à la Maison-Blanche puis ce qui se passe sur la scène politique américaine, ça devient très, très proche de nous. Et donc, et je vois par les textos que je reçois présentement, Luc, au 98985, je vois à quel point les gens sont bien informés et à quel point ils ont une opinion sur la question. Si ça vous tente de la partager avec nous, appelez-nous au 790-9850. Tu vois, il y a quelqu'un qui nous écrit, c'est très intéressant, il dit « La section opinion du New York Times est complètement indépendante de la section nouvelle. La section nouvelle n'a même pas été prévenue de la publication de la lettre. Le New York Times a un firewall entre les deux salles depuis longtemps, ce qui pourrait vouloir dire, Luc, qu'un journaliste ou une journaliste du New York Times qui apprend l'identité pourrait le publier. C'est ce que je déduis de ça. Alors, est-ce que la haute direction du journal le permettrait? Est-ce que la, voilà. Moi, je pense que le propriétaire voilà du journal, moi, je pense que le propriétaire du journal sur une histoire comme celle-là a été mis dans le coup.
Ah, tu peux être sûr. Hein? Puis beaucoup d'avocats aussi.
Bon. Alors, est-ce que, à ce moment-là, le propriétaire du journal a donné son engagement auprès de l'auteur de la lettre qu'il n'y aurait jamais quelques publications que ce soit de son identité, que son anonymat, en tout cas pour ce qui a trait au New York Times, serait protégé à la vie et à la mort?
Moi, je pense que oui, puis c'est ça que je trouve inquiétant.
Alors, il y a d'autres auditeurs qui nous écrivent. Il y en a un qui dit, un patriote, parce que j'ai utilisé ce mot-là, un patriote qui travaille contre le président des États-Unis, ça s'appelle un rat. Ça s'appelle un traître. Mais il y en a beaucoup qui disent ça aux États-Unis présentement. Ils disent que c'est absolument abominable ce qui s'est passé.
Il y en a beaucoup, Bernard,
de la trahison. C'est une trahison.
Bernard, il y en a beaucoup. Puis étonnamment, il y en a beaucoup qui ne sont pas de la gang de Trump qui disent ça aussi.
Oui.
Il y a d'autres journalistes plutôt identifiés, disons, au courant libéral de la société américaine qui eux aussi disent
ils partagent le malaise que tu as.
Le malaise, c'est le bon mot. Tu sais, je ne suis pas en colère contre eux autres.
Ouais.
Je me mettrai pas à boycotter ce journal que je lis depuis des années et des années et des décennies.
Ouais.
Mais le fait est que je me sens drôle avec ça. C'est aussi mon métier.
Hein. Ah oui, je sais. Puis c'est le mien également. 790-9850. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, votre opinion.
Bonjour à vous deux.
Oui.
Alors, bonjour. Mon opinion à moi, vous savez, je suis vraiment contre tout ce qu'on appelle site conspirationniste ou quoi que ce soit, mais il faut se souvenir qu'avant l'élection de M. Trump, il n'y avait pas grand monde du Parti républicain qui backait M. Trump. Il les avait même à dos. Il était comme finalement un troisième parti qui se présentait. Hein? Et quand il a été élu, je pense, moi, que la grande majorité des grands bons du Parti républicain l'ont accepté le nez bouché. Hein? Et moi, je pense que tout ça se trame depuis le jour 1 de son élection. On va le laisser faire des gaffes, on va le laisser faire parce qu'on pense pas qu'il va être présidentiel et éventuellement, on va le débarquer par la porte en arrière et on va rentrer notre gang. Moi, je pense que M. Pence, il attend ce moment-là. On n'est plus à l'époque des années 60 où un président peut se faire tuer sa rue. Là. Ça n'existe plus, ça. Alors, on l'a laissé s'enfarger avec sa corde, mais le nœud du problème, c'est pas Trump. Faut jamais oublier qu'il y a 60 millions de personnes qui ont voté pour lui.
Bien sûr.
Et que plus les États-Unis vont aller mal, et ça va aller de plus en plus mal, à mon avis, parce qu'ils n'ont jamais accepté les changements de la mondialisation, et plus on va voir des 60 millions, 70 millions, 80 millions voter pour des gens populistes comme Trump dans le futur.
Merci Stéphane pour l'appel. C'est intéressant. Tu vois, il y en a un qui m'écrit, il fait la comparaison avec gorge profonde, Deep Throat.
Deep Throat. Ça a pris des décennies avant de savoir qui était Deep Throat.
Et c'était un agent du FBI, hein, finalement, on a su.
Un agent frustré du FBI
qui était la source donc de Woodward, de Woodward, hein, j'allais dire Woodward et Bernstein, mais je pense que gorge profonde ne parlait qu'à Woodward.
Je crois, oui.
Autre texto, ce qui est important, me dit un auditeur, c'est que cet homme-là protège le peuple. Et en fait, c'est une madame qui nous écrit, elle dit, s'il se nomme, croyez-vous que la personne garderait son poste? Bien sûr que non.
La réponse est non.
Peu importe qui c'est, l'important, c'est que cette personne agit et protège le peuple contre ce danger, nous dit la dame. On s'en va rejoindre Martin. Bonjour, Martin.
Oui, bonjour. Vous m'entendez?
On vous entend.
Oui, bien sûr.
OK, parfait. Je trouve que cette personne-là n'est pas... si j'étais citoyen américain, je ne serais pas rassuré. Cette personne-là ne fait pas preuve d'intelligence en ayant été voir le New York Times. Elle aurait dû rester là, travailler avec ceux qui sont complices, en fait, et se taire. Tu te tais, tu fais ton travail et tu ne récoltes pas les fruits. Je comprends qu'il veut rassurer les Américains, mais c'est pas la bonne façon de faire parce que là, Washington est à feu et à sang. On veut savoir c'est qui. Et selon moi, c'est pas une preuve d'intelligence, au contraire. On le sait comment qu'il est fou, ce gars-là. Donc, ça aurait été beaucoup plus, ça aurait été beaucoup mieux qu'il fasse son travail, que le travail continue. On se tait. On parle pas. Et là, en plus de ça, CNN est en train de devenir, devenir le Fox News des démocrates, quasiment. C'est en train de
c'est le cas, c'est le cas.
Ben exactement, et c'est en train de chambouler d'une façon complètement. Je trouve pas que c'est intelligent. Voilà, c'est ce
merci,
que je voulais dire.
Merci, Martin. Ça c'est un argument intéressant parce que.
Ben ils ont cessé de jouer au journalisme objectif. Oui. Ils sont carrément anti-Trump.
Mais ce que dit Martin, c'est que la publication de la lettre risque d'empirer la situation qu'il dénonce dans sa lettre que l'auteur dénonce, parce que Trump va être encore plus fou, encore plus.
Ben on l'a vu dans un discours hier, il est complètement déchaîné.
Là. Ah ouais, puis là évidemment il va être encore plus paranoïaque.
Ah ben ça,
il risque de cacher des documents qu'on lui retire, dit-on, et dans le livre de Woodward et dans cette lettre.
Il risque de ne plus jamais parler à des conseillers puis d'y aller lui-même avec ses instincts si dérangés.
Ça, c'est un argument intéressant, je pense. Dans la colonne des contres, ça, je pense, c'est un argument intéressant. En terminant, Jérôme, bonjour.
Bonjour, monsieur. Écoutez, c'est tout à fait un non-élu.
Jérôme, c'est pas écoutable, je m'excuse. La ligne, malheureusement, n'est pas bonne. On va, c'est dommage, vous reprendrez. On va s'arrêter là-dessus, Luc. On a présenté les deux grandes conceptions de l'affaire, les deux grandes positions, et puis on va laisser nos auditeurs se faire une tête. On va s'arrêter parce qu'au retour, tu vas nous donner ton bon coup du jour. Donc, la fleur s'en vient.
Ça en vient, oui.
En voiture, tout le monde!
J'espère qu'on fera un voyage tranquille.
Avec bien fait, sur un
Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis.
Yeah!
Tu n'es même pas étonné.
Wow!
De voir un poulpe.
Nager.
Fais du surf en musique.
Ça, c'est le thème de l'autobus magique. Hein?
C'était dans les années 90, me dit-on. Moi, j'avais pensé aussi à Magical Mystery Tour, le brillant album, très connu album des Beatles.
Alors, c'est ton bon coup, c'est l'autobus de...
l'autobus de Québec solidaire.
Ben voyons, toi!
Ils se sont dit au début de la campagne, écoute, nous autres de Québec solidaire, là, nous ne sommes pas des marginaux, nous ne sommes plus des marginaux, on est big, comme on dit au Québec. Nous autres, on est big.
Ouais.
Alors, ils se sont équipés d'un autobus de campagne pour le chef. Ou
un gros Prévost-car, là, un gros Prévost-car.
C'est ça, puis un deuxième pour transporter les médias. Qui avait été équipé de façon appropriée, comme on voit dans les autobus qui sont équipés pour accueillir des journalistes avec des appareils électroniques et tout.
Ouais.
Et là, ils ont eu un petit problème, c'est qu'il y a deux journalistes qui les ont suivis pendant à peu près 7-8 jours, Le Devoir, je crois, et Radio-Canada. Et là, ils les ont abandonnés, fait que l'autobus était vide. Alors là, ils ont dit, nous allons inviter des influenceurs à venir passer la journée dans notre autobus. Et là, les premiers influenceurs qu'ils ont eus, ce sont deux ex-candidates de Occupation Double qui, eux autres, sont en train de faire du Instagram.
Oui, alors... parce que non, mais ils ont un gros YouTube. Les deux, là, dont il y en a une, c'est Jessie Nadeau.
Oui.
Jessie Nadeau, si tu vois surgeler son Instagram sous les yeux. A priori, comment te dire ça, mon ami? C'est pas la politique qui l'intéresse quand tu vas sur son Instagram. C'est davantage des photos d'elle-même. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Alors, le Magical Mystery Tour est maintenant ouvert à tous.
Oui.
Il faut payer, par exemple, ça a l'air. Ils ont commencé par dire que ça serait gratuit, mais c'est Gabriel Nadeau-Dubois, probablement, qui a appris ce genre de truc-là quand il allait à l'école privée. Il s'est dit, on n'a pas de budget pour faire ça. Il va falloir qu'il paye d'une manière ou de l'autre.
Mais là, l'autobus était déjà vide. Il fallait qu'il paye pour l'autobus.
Il payait pour l'autobus, mais là, ils ont décidé qu'ils allaient faire payer les influenceurs. Ils veulent des influenceurs du web, là, tu sais, des gens là, qui... je ne veux pas complètement rire de ça parce qu'effectivement, il y a toute une autre façon de communiquer de nos jours que des gens dans Québec solidaire connaissent mieux que toi et moi, probablement.
Oui.
Mais le fait est que...
Non, c'est... mais ce qu'ils font, tu sais ce qu'elles font, les deux filles, hein? Les deux filles, c'est, comme tu l'as dit, deux anciennes participantes d'Occupation Double. Elles ont tous les deux un compte Instagram. Et ce qu'elles font, c'est qu'elles publient sur Instagram des petites vidéos de leur journée avec Gabriel Nadeau-Dubois ou avec Manon Massé. Elles deviennent, d'une certaine façon, des espèces de in-house reporters, là. C'est comme si des... Dans le fond, elles font le travail, un petit peu. Des journalistes qui sont pas là.
Ouais, puis elle le fait met au goût du jour. Elles le font en étant plutôt sympathiques. Elles le font, devrais-je dire, en étant plutôt sympathiques à Gabriel Nadeau-Dubois. Parce que, tu sais, pendant que ce Magical Mystery Tour est en train de s'organiser, on continue les annonces. Là. Hier, moi, je trouve ça incroyable, des annonces pareilles. Ils ont annoncé qu'ils allaient acheter le train REM de la Caisse.
Hein? Oui.
Puis qui allait construire 38 stations de métro.
Oui, mais ça, c'est. Soyons honnêtes, soyons de bon compte, ça inclut la ligne rose.
Ça inclut la ligne rose, hein? La ligne de toutes les couleurs, mais Bernard.
Je trouve que ça commence à faire beaucoup. Comme j'ai dit tout à l'heure, rendu à 38, là, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pourquoi pas 52?
Et aussi, ils ont récemment annoncé qu'ils allaient offrir aux Québécois une politique nationale de la biomasse. Là, je me suis dit, ça y est, standing ovation, la salle est debout, ça crie. Hey, nous autres, on va avoir une politique nationale de la biomasse. Connais-tu quelqu'un d'autre qui en a une? Mais là, après ça, les gens disent, c'est quoi la biomasse? Je dis, ben, t'es ben niaiseux. Voyons donc, la biomasse. Tout le monde sait c'est quoi.
Ben, vas-y, explique-nous-les.
Ah, ben, je suis pas trop sûr. Ah, ça, c'est les résidus de forêt. Là,
mais oui, sais. Bravo!
Puis là, les en plus, aujourd'hui, ils ont annoncé ce matin...
Ils vont t'obliger à te chauffer avec des restants de sapin.
Ils ont annoncé
ah, non, mais check ça, ce qu'ils vont faire. Biomasse. Avec la légalisation du pot, là. Il va avoir des plants de potes, mon chum. Une fois qu'on va avoir enlevé les feuilles, là, il va rester le coton. Là.
Ouais.
Fait que, Asto, on va tous se chauffer avec des cotons de plants de potes, puis on va tous être gelés à l'année longue. Hé, hey, boboy, on l'a-tu l'affaire?
Ils vont ainsi augmenter le niveau de bonheur de la population.
Mais...
Plus le temps passe, plus il me rappelle le parti Rhinocéros auquel j'ai adhéré et j'étais tellement fier d'en faire partie. Eux, à l'époque, entre autres, ils proposaient de... remplacer l'eau dans les bornes fontaines par du jus d'orange pour augmenter la santé publique. Alors moi, je trouvais ça très bon. Puis il y avait une autre idée qui était avancée par le parti Rhinocéros, c'est qu'il allait aplanir les montagnes rocheuses pour réunifier un peu plus le pays.
Ah.
Je trouvais ça intéressant, ça aussi.
Oui.
Et je me souviens qu'un des candidats vedettes, qui s'appelait Corneau, mais je ne sais même pas s'il est encore vivant, lui, il avait convoqué les journalistes pour leur démontrer que Einstein avait tort, que le chat voyageait plus vite que la lumière. Alors, il était monté au troisième étage sur les balcons typiques de la rue Saint-Denis, puis il avait pris un chien en peluche dans une main puis une ampoule électrique dans l'autre main. Il les avait laissés tomber, comprends-tu? Puis le chat est arrivé avant l'ampoule électrique. Il avait dit, donc, Einstein avait tort, comprends-tu?
Le chat voyage plus vite.
Puis, lors de l'élection fédérale de 1980, à l'époque, ça n'avait pas duré longtemps, il donnait du temps d'antenne Radio-Canada, la Société Radio-Canada.
Oui, oui, oui.
Vous offre du temps d'antenne.
Oui.
Vous faites ce que vous voulez.
Avec cette voix-là, d'ailleurs.
C'est ça. Puis, oui. Vu qu'en 79, il y avait eu comme 12 % du vote au Québec, il y avait la Société Radio-Canada. Et là, tu avais Michel Rivard, qui est notre Michel Rivard national.
Oui.
Il arrivait avec sa guitare dans une espèce de décor de cosmos. Puis là, il disait... C'est nous, du parti Rhinocéros, qui irons dans le cosmos y déposer la banane sur laquelle la Terre va glisser pour tomber sur le cul. Alors, okay, moi, je regarde les Québec solidaire,
okay.
Il me rappelle les grandes années du parti Rhinocéros, et je te rappelle, Bernard, que j'en étais vice-président.
Tu me niaises.
Mais non, mais c'est parce
mais là, lâche-moi pas une affaire de même à la fin
docteur...
de la chronique. Faut que je m'en aille à la pause.
Le docteur, docteur Ferron était un homme qui avait le sens de la justice,
ben oui.
Le fondateur.
Oui.
Alors, il s'était dit, il n'y aura qu'un président, moi, et tous les autres membres seront vice-présidents. C'est ainsi que je suis devenu vice-président du Parti Rhinocéros.
OK, d'abord. Luc Lavoie, tu vois, t'es capable d'avoir un bon sens de l'humour puis de me faire rire.
Magical Mystery Tour.
Entre les moments où tu me fais donner... Bon, hey, salut, bonne fin de semaine.
Salut, Bernard.
Dans un instant, c'est Christian Page qui s'en vient avec les mythes et complots. Les Beatles nous amènent à la pause.